Bonjour et bienvenue à Escale, la 17-18. Voilà, c'est l'avant-dernière émission de la, de la semaine, avant le long week-end. Qui semaine d'ailleurs? Fulgence Blanc au micro et à la technique, Nicolas. Alors, il va falloir qu'il me dise son nom de famille pour que je dise son nom complet, quoi.
Zwartman. Exact.
Nicolas Zwartman. Vous avez entendu, hein? Zwartman. Merci, Nicolas. Et puis, bon, en première partie d'émission, notre chroniqueuse de sport, Myriam Larrey, sera avec nous. Et en deuxième partie, on va recevoir un artiste complet, d'ailleurs, qui a tabassé un directeur artistique du groupe Constantinople pour les 20 ans du groupe. Restez à l'écoute et on part tout de suite en musique avec Janet Jackson et la complicité de Daddy Yankee, Made for Now.
Janet Jackson, I'm coming. I can live it for the moment. Go.
Jackson et Daddy Yankee, Made for Now. Voilà, ça fait bouger, comme dirait mon collaborateur à la console là-bas, Nicolas, qui dit c'est un bon beat. Hein. J'ai dit ouais, Janet Jackson, on s'ennuie pas avec elle, ça danse. Notre chroniqueuse de sport, Myriam Larrache, est déjà au bout du fil. Elle m'entend raconter mes histoires de Janet Jackson.
Ça a l'air de vous mettre de bonne humeur, les gars.
Ah oui, ouais. Bonjour. Bonjour Myriam.
Bon après-midi Fulgence et à tous ceux qui nous écoutent, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Et toi?
Oui.
Alors, que tu nous as concocté ou bien qu'est-ce que tu nous as comme surprise? Qu'est-ce que tu vas, comment tu vas nous surprendre?
Il y a des surprises, puis il y a des choses pas drôles parce qu'aujourd'hui, vous avez dû l'entendre, Fulgence, le monde de soccer féminin est secoué depuis une semaine à peu près.
Qu'est-ce qui se passe encore?
Alors, surtout dans la Ligue féminine nord-américaine. D'abord, on va pas commencer par les États-Unis. C'est pour ça que je dis le monde du soccer féminin est secoué.
Oui.
C'est que la Ligue féminine donc nord-américaine de soccer est au cœur d'une énorme tempête depuis qu'il y a eu la révélation d'abus sexuels d'un coach réputé sur le site de sport Athletic.
Okay.
Alors, l'entraîneur Paul Riley, il a 58 ans. Il a été mis en cause par deux joueuses du club des Tours de Portland.
Oui.
Manachim et Sinead Farrelly, qui l'accusent de les avoir forcées, agressées sexuellement et même influencées leur carrière en 2015. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le club Thorns de Portland, pour qui jouaient ces filles-là, l'ont licencié, mais sans jamais rien dire. Ils ont expliqué à personne, ils l'ont mis à pied et il est parti. Il est parti s'entraîner pour une autre équipe qui est le Courage de la Caroline du Nord.
Oui.
Qui, après ce scandale, ben bien sûr, elle l'a licencié aussi la semaine dernière.
Oui.
Écoutez, c'est affreux ce qu'elles ont raconté, ce qu'il leur faisait. Il les forçait à avoir des relations entre elles, dans son appartement, avec lui, en les menaçant aussi de leur carrière, de leur sélection dans l'équipe.
De ne plus les aligner au cours des matchs.
Exactement. Il a beaucoup joué à ça.
Oui.
2015, imagine, nous sommes en 2021 quand même. Alors la FIFA a annoncé cette semaine l'ouverture d'une enquête. Ce qui a entraîné la démission de la commissaire de la Ligue américaine complètement parce qu'elle a été visée en sachant qu'elle savait.
Elle était au courant du comportement de cet entraîneur-là.
Exact. Une inaction dans cette affaire. Donc, elle a posé sa démission. Elle est partie d'elle-même.
Oui.
Hier, par solidarité, imagine, hier, il y avait un match entre les joueuses du Washington Spirit et du Gotham FC qui ont, pendant le match, interrompu leur match pendant une minute pour protester contre les agressions sexuelles dont ont été victimes ces deux joueuses.
Oui.
La semaine dernière, d'autres joueuses, par solidarité aussi, ont refusé même de jouer et de venir sur le terrain.
Oui.
Alors donc, voilà, on a les vedettes d'ailleurs de l'équipe nationale américaine, sûrement que tu les connais, Alex Morgan et Megan Rapinoe.
Oui, la grande Megan.
Oui, la grande Megan, qui soutiennent les deux joueuses. Et elle critique beaucoup la Ligue américaine qui ne fait rien pour tout ça.
Mais qui était au courant de tous ces problèmes du mauvais comportement de cet entraîneur, je veux dire.
Oui, les gens, en tout cas le club de Portland était au courant. Et c'est pour ça qu'il s'excusait ouvertement dans la presse hier, je pense, avant-hier, en disant on regrette ne pas avoir été transparent, ne pas avoir dit en 2015 ce qui s'était passé avec cet entraîneur, puisque je pense qu'il y a d'autres histoires, à mon avis, qui vont sortir du nouveau club.
Le courage
de Caroline du Nord. Il ne s'arrête pas là, ce genre d'homme.
Oui.
Alors, au Venezuela, la même histoire quasiment, cette semaine aussi, 24 joueuses vénézuéliennes, dont la star du soccer féminin, Deina Castellanos, ont dénoncé ce mardi les abus sexuels de leur ancien sélectionneur, un Panaméen, Kenneth Zeremeta, dans un texte signé par les joueuses, les 24 joueuses. Ils l'ont affiché sur les réseaux sociaux. Alors, à la tête de cela, donc cette vedette du soccer féminin, qui a été quand même apparemment l'une des meilleures joueuses au monde. Elle jouait pour l'Atlético de Madrid.
Oui, oui.
Alors, elle a co-signé cette lettre, elle l'a présentée. Elle a dit que alors c'était un coach incroyable parce qu'il les a quand même emmenés, elles ont gagné deux fois les titres sud-américains, il les a emmenés en finale mondiale.
Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est son comportement. Oui.
Exact. Mmh. Licencié, mais parce qu'elles avaient peur de lui, parce qu'il les a emmenés en finale. Tu comprends comment ils jouent ces hommes-là sur ces jeunes filles-là? Ce sont des jeunes filles qui ont quand même moins de 17 ans.
Ça fait penser un peu au médecin là qui s'occupait des filles, qui faisait quel genre de sport là aux États-Unis, le médecin.
Imagine, elle voit cette victoire. Je vais vous emmener à la finale, je vais vous sélectionner pour l'équipe. Tu comprends? On voit bien quel était son gros pouvoir.
Moi, ça me fait penser aussi, en même temps aussi au milieu de la mode où les jeunes,
les filles commencent
toutes jeunes et puis bon, je ne sais pas. Même si la présence des parents ne peut même pas dissuader ces gens-là.
On ne peut pas être là partout.
C'est ça.
Et donc, lui, il a été licencié en 2017, mais devine, alors il travaille en République dominicaine et au Panama. Donc, monsieur continue d'être un coach. Est-ce que tu penses que celui-là aussi, il s'est arrêté en arrivant au Panama ou en République dominicaine? Je ne pense pas.
Mais il
va
suivre ça. Il va perdre son poste. Là-bas.
Exact. Voilà. Alors, il faut que ça sorte.
Et au niveau du Canada?
Non, on n'a pas encore eu de plainte pour l'instant.
Pour l'instant, c'est sûr, voilà.
Il faut que tout ça sorte. D'ailleurs, il faut que ça, tu sais comment ça se passe. Ça commence comme ça, puis après, on va entendre plein d'histoires qui vont apparaître dans le monde du soccer. Hein.
Alors,
il faut qu'on change cette culture qui commence à être commune. Je ne sais pas si tu as remarqué, Fulgence. On a les prêtres d'église, puis on a les coachs de clubs de sport. Hein. Ça devenu un classique. Hein.
Tu es dans
un club de sport, tu mets ton enfant là. Tu commences à avoir des doutes.
Ton enfant va à la messe. Ton enfant va être comment on appelle ça, les enfants qui servent la messe, là. Oui.
Exact. Alors, il faut changer tout ça.
C'est vraiment.
Maintenant, c'est un peu lourd, tout ça, malheureusement.
Les femmes,
il faut être solidaire et les laisser parler et les entendre et les écouter. Ouais. Alors, maintenant, on passe au futsal. Est-ce que tu as vu la finale de la Coupe du Monde de futsal FIFA 2021?
Non, j'ai pas vu ça. Tu me rends jaloux, là. Toi, tu vois tous ces grands matchs-là, mais c'est pas vrai.
Elle est
scotchée devant sa télé, elle voit tous ces beaux matchs.
Je dors tard des fois.
Allez, tu nous expliques ça, s'il te plaît.
Exact. Alors, ça s'est passé en Lituanie cette année, hein, le championnat du monde de futsal 2021.
C'est en pleine nuit, ça. Oui.
Et j'en parle aussi parce que, figure-toi, je te le dis en parenthèse, mon fils a été aussi sélectionné dans son équipe de collège au futsal. Alors, je vais suivre ça de proche.
Je comprends. Elle est entourée de sportifs, là.
Exact. Alors, le Portugal, champion d'Europe en 2018, a su détrôner l'Argentine, championne en titre lors d'une finale spectaculaire à la Kaunas Arena en Lituanie.
Oui.
J'ai vu le match. Le joueur Pagny va rester l'un des grands marqueurs de cette édition 2021 en faisant un doublé à cette finale avec deux buts qui a donné la victoire. Il sera d'ailleurs récompensé du soulier d'argent Adidas.
Alors, moi, j'aime les joueurs qui font soit le doublé ou bien le triplé au cours d'un seul match. J'adore ça.
Et il a marqué tout au long de l'édition. Hein.
De l'édition,
Et les Portugais ont pleinement profité de leur avantage numérique parce qu'à un moment donné, ils vont jouer 4 contre 3. Tu sais que c'est 4 joueurs, un goaler. Le terrain est petit. On dirait un terrain de handball. Je ne sais pas si tu as déjà joué au handball, mais moi, oui.
Oui, alors, moi, beaucoup plus au handball qu'au basket. Ça. Oui, ma taille ne me permettait pas trop de concurrencer.
Et la touche se fait au pied, hein, au futsal, la touche se fait au pied.
Il
y a des punitions. Donc, il y a eu un avantage numérique pour un carton jaune par Cristian Burrito, un des grands joueurs aussi dans le futsal réputé, connu pour l'équipe d'Argentine.
Oui.
Et il a fait un geste, une chose que moi je n'ai pas vu quand c'était en direct comme ça, je ne l'ai pas vu si rapidement, mais quand la caméra a repris, Cardinho est tombé à terre, il hurlait sa vie, ils sont venus voir, il avait une rougeur dans le ventre, on est parti voir dans le cadre quand ils font le carré comme ça, tan, c'est parti. Ils ont vu, et quand j'ai vu là l'image en ralenti, Fulgence, d'une violence, d'une agressivité, il a vraiment pris intentionnellement son coup de poing qu'il a enfoncé dans l'abdomen du Portugais.
De son adversaire.
Oui, mais vraiment, c'était pas un accident, c'était volontairement fait.
Qu'est-ce que l'arbitre a fait ? Carton rouge.
Carton rouge, il l'a exclu sur l'estrade, il lui a dit, tu n'es même pas, tu remontes en haut, si tu veux regarder, tu restes même pas en bas.
Oui.
Il a contesté, ça c'est triste à voir de contester ça, parce que c'est un grand joueur apparemment respecté, que c'était son 4e mondial, et que, hélas, il a joué à cette carte-là. Alors c'était triste à voir. Alors ils en ont profité, les Portugais, ils ont marqué un beau but le premier, et finalement, donc, ils ont gagné cette coupe, qui est une première pour le Portugal.
Moi, je dirais même pas qu'ils en ont profité. Bon, ben, c'est dur. Quand tu viens, toi, un grand joueur comme ça, de renommée internationale, tu viens donner un coup de poing dans le ventre de ton adversaire. Alors, où est la classe ?
Exact. Je t'ai dit, c'était pas beau à voir, Fulgence. Tu as l'occasion de le voir sur YouTube, tu peux. Alors, soulignons que quand même, Ricardinho, ce fameux qui a pris le coup, est quand même le capitaine de l'équipe du Portugal.
Oui, parce que c'est lui qui lui empêchait de gagner, quoi.
Ouais, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du futsal, imagine. Alors, le Portugais a concrétisé son rêve et a ajouté le trophée mondial à son prestigieux palmarès. Lui aussi, il a eu un soulier de bronze, je pense.
Myriam, avant de continuer, quel est le niveau du futsal ici au Canada?
Tu vois, ça, je ne peux pas te dire, parce que tu vois, dans le mondial là, qui a participé, il y a eu un seul pays d'Afrique qui participait.
Oui.
Qui arrivait même en quart de finale, c'était le Maroc. Un seul pays d'Afrique.
Oui. Au Canada, en Amérique du Nord, on dirait que c'est pas.
En Amérique, il n'y a eu que les États-Unis qui ont participé pour nous représenter l'Amérique du Nord.
Oui.
Bien sûr, il y avait l'Argentine et le Brésil, ils sont connus pour avoir gagné 5 titres quand même.
Mm-hmm.
Et l'Europe, il y a beaucoup de pays européens.
Oui, je sais que. Mais au Canada, je ne sais pas si. Bon, l'Europe a beaucoup de pays quand même. Voilà.
Oui. Mm-hmm. Alors, c'est une bonne question, parce que étant donné que nous avons que ça se joue dans un gymnase, on devrait avoir une équipe.
En principe,
c'est l'Amérique qui est partie. Peut-être que on n'a pas bien fait le Canada. D'ailleurs, on n'en entend même pas parler, tu vois. Ça te donne une
idée. C'est ce qui fait que je t'ai posé la question, Myriam.
Oui, ça te donne une idée.
Ouais, alors, parce que je n'ai jamais entendu parler de foot, de soccer, de salle ici, quoi, au fait.
Mais dans les collèges, oui, parce que tu vois, mon fils, c'est ça qu'il lui propose pour l'hiver. C'est
le bon, d'accord. Oh, tu vois, en hiver, ouais, là, je peux mieux. Voilà, on est dans un pays du Nord, quand même.
Exact. Donc, mon fils, il lui propose plus. Pas
tout
du
l'hiver, ça devait jouer le... Hein. Voilà, c'est ça. Exact. Allez, je te laisse partir.
Oui, on continue. Alors... avant de conclure, je vais parler du tournoi d'Indian Wells qui commence aujourd'hui. Officiellement, oui. C'est dans le désert californien.
Oui.
Ça se joue d'habitude au mois de mars. À cause de la pandémie, il a été reporté au mois d'octobre. Donc, il se joue à partir d'aujourd'hui. Je vous en parlerai plus largement la semaine prochaine.
Oui.
Il joue du 7 au 17 octobre. Le numéro 1 mondial, c'est devenu un classique. Il ne vient pas. Novak Djokovic ne sera pas là. La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, non plus. Naomi Osaka, on l'attendait non plus qu'elle déclare forfait. Et la numéro 2, Arina Zabalenka, elle déclare forfait car elle est testée positive au Covid-19.
Mais qui vient jouer alors?
Alors qui?
S'il te plaît,
Emma Raducanu, oui. Elle sera là. La Québécoise, aussi fantastique, elles vont nous montrer qu'elles peuvent encore faire des miracles, n'est-ce pas? Alors on les attend, toutes les deux. Et il y a bien sûr les Zverev qui seront là, la garde qui prend maintenant la relève, la nouvelle garde qui prend la relève des quatre vieux qui ne viennent plus. Hein, on peut se permettre de dire qu'ils sont vieux maintenant.
Oui, à propos les quatre vieux, non, faut pas, moi je les appelle pas les vieux.
Pas encore.
Ah, oh, Myriam, non, c'est méchant ça, les vieux.
Non, ces jeunes de 21 ans, Fulgence, ils commencent à être vieux. Hein.
Ah oui, c'est vrai, c'est le tennis. C'est le tennis. Non, parce que j'ai lu quelque chose il y a deux semaines ou bien une semaine, oui, à propos de Nadal. Il a une maladie, oui, dont... Quel est le nom qu'ils ont donné à cette maladie, quelque chose comme ça?
J'ai pas vu ça.
Ça fait, traîne cette maladie depuis 2005, même, paraît-il. Donc, c'est pas pour rien, tout le temps, il était en arrêt, il revenait, il était en arrêt, mais là...
Ils n'aiment pas dire ça publiquement, ils le disent vraiment parce que ça a dû échapper à quelqu'un, hein. Ils n'aiment pas dire ça qu'ils sont malades ou qu'ils ont quelque
chose. Et puis bon, à un moment donné, cette fois-ci, là, je pense bien qu'il ne compte pas revenir avant 2022.
Oh!
Ah oui, jusqu'à ce point, quand j'ai vu... J'ai dit, tiens, je vais demander à Myriam...
Parce que tu vas me couper pour ne pas finir mon insolite.
Ah non, je ne vais pas te couper. Je te laisse partir, allez, va jusqu'à ton insolite.
Alors, j'ai décidé, Fulgence, de proposer maintenant de temps en temps un sport insolite, inusité ou dont on parle peu. Okay,
oui, tu as le droit.
Comme on approche de la saison de hockey, hein, n'est-ce pas?
Oui.
À un moment donné, il va falloir, j'essaie de l'éviter pour l'instant parce qu'on va parler que de ça l'hiver, mais bon, le hockey s'en vient, hein, le Canadien qui joue dans des matchs amicaux, il perd, il gagne, hein, ça commence un peu.
Et puis tu vas nous parler concernant le hockey, le Canadien de Montréal, là, il va faut que tu nous parles un peu des départs et puis des arrivées, hein.
Oui,
j'ai bien hâte de savoir qui ils ont recruté. Voilà.
Exact. Et souligner quand même aujourd'hui la grande sortie de Carey Price qui est en arrêt complètement du camp d'entraînement. Apparemment, il a demandé de l'aide pour la santé mentale. Donc oui, c'est les grosses nouvelles d'aujourd'hui.
Mais il ne faut pas oublier que c'est son peuple qui est actuellement en réconciliation avec le gouvernement fédéral.
Ça l'a atteint.
Oui, c'est normal.
Il a demandé un arrêt et de l'aide. Voilà.
Oui, c'est
normal.
Alors,
on va suivre l'affaire de Carey Price.
Quelqu'un qui n'a...
Pour l'instant...
Moi, je ne l'ai jamais entendu à répondre à des questions d'un journaliste. Il ne parle pas.
Il est spécial. Il a un caractère assez spécial. Il répond laconiquement. Il répond des réponses courtes et ça semble déranger de faire une entrevue.
Ah bon, d'accord, ok.
Mais il n'aime pas. Ça fait partie de son caractère.
Oui, il n'aime pas les entrevues.
Il n'aime pas les entrevues, il a le droit.
Voilà.
moi, j'estime que oui.
Oui.
Moi, ça ne me dérange pas. Ça dérange des fans. Moi, ça ne me dérange pas, honnêtement.
Ok, allez, vas-y, je te laisse venir avec ton insolite.
Alors justement, pourquoi donc j'ai choisi un sport insolite que moi, je ne savais pas qu'il existait. Peut-être que toi, oui, tu vas me le dire. Le hockey subaquatique. Est-ce que tu sais que ça existe, ça, Fulgence?
C'est la première fois que j'entends ça.
Moi,
j'ai jamais entendu parler. Le subaquatique, ça veut dire quoi, ça?
Ben, c'est ça, le hockey. Je me suis dit, tiens, le hockey subaquatique, les Canadiens, on doit être forts là-dedans. Attends voir d'abord.
Allez, faites-vous découvrir ce sport-là.
Voilà. Ce sport est apparu pour la première fois au milieu des années 50 à Portsmouth, en Angleterre, et a été inventé par Alan Blake, c'est un Anglais. Alors, il s'est dit,
comment ça se joue
le sport? Ça se joue dans la piscine, dans le fond de la piscine.
Oui.
Et ça ne se joue pas debout, monsieur. On va penser qu'on va jouer au hockey debout dans l'eau. Non, ça se joue à l'horizontale. Ok, on joue à l'horizontale avec un tuba, un bâton, des gants et des palmes.
Est-ce qu'il y a déjà des championnats pour ça?
Oui, alors je me
rappelle. Pourquoi on n'entend pas parler de ce sport?
Le jeu a énormément évolué depuis 1950.
Ah bon?
Il était par exemple pratiqué au début avec des bouteilles de plongée et avec des crosses de hockey sur glace. Mais il a évolué. On a enlevé tout ça. On a mis un bâton de 30 cm, ok?
Oui.
On a mis une palette dans le fond, donc la rondelle qu'on appelle, dans le fond, qui pèse 1,5 kg. Donc elle reste dans le fond. Et tu la fais glisser dans le fond de la piscine, tu comprends? Tu as des palmes et un masque, un tuba, et c'est en apnée que ça se joue. Alors tu joues, tu remontes en haut, il y a deux arbitres dans le fond de l'eau et un arbitre à l'extérieur.
Mais est-ce que les spectateurs arrivent à les voir?
Oui, les spectateurs arrivent à les voir, ils sont là. Et figure-toi qu'il y a maintenant une trentaine de pays qui pratiquent ce sport. Ils ont fini par se rallier pour se fédérer à une confédération mondiale des activités subaquatiques. Oh, écoute, on apprend des choses. Où le hockey est maintenant officiellement reconnu quand même depuis 1978, le hockey subaquatique. D'ailleurs, en Afrique du Sud, juste pour que tu le saches, Fulgence,
oui,
tu joues au hockey subaquatique.
Ah oui, il y a beaucoup d'eau là-bas.
Oui, mais ça se joue pas dans la mer. C'est ça le problème, ça se joue dans une surface plane, dans le fond d'une piscine.
Oh ouais.
Alors, chaque équipe est composée de 10 joueurs, 6 sont dans l'eau et 4 suppléants. Et donc, voilà, il y a des championnats qui existent par pays, par continent, et il y a même un championnat du monde. D'ailleurs, le Québec voulait recevoir le championnat du monde de 2018, mais on n'a pas reçu.
Si ils avaient reçu, on allait connaître ce sport-là.
Voilà, bien sûr que le Canada joue à ce sport,
ah oui,
et partout, il y a des clubs, dans tout le Canada, il y en a au Québec, et je m'adresse à nos auditeurs, si vous êtes intéressés, il y a le club de Montréal, vous pourrez y aller sur la page Facebook à Camo Hockey Sous-Marin, et vous pourrez pratiquer ce sport. Alors je me suis dit, Fulgence, ils disent que c'est un sport accessible à tous. Je te suggère que toi puis moi, on pense à peut-être aller pratiquer ce sport dans le fond marin, en tuba et en palme.
Ah non, j'essaie de nager, mais pardon là.
Tu sais ce que je me suis dit, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, ah non, Fulgence et moi, on va sûrement flotter en haut. On va pas être dans le fond pour jouer à la palette.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Belle longue fin de semaine d'Action de grâce.
Parfait.
À toi et à ta famille.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Du feu de camp, et on entend parfois la nuit chanter les criquets avec des enfants. Dans ce petit coin de pays, on connaît tous nos noms par cœur, tellement qu'on n'est jamais mal pris quand chaque voisin est un dépanneur.
oui, c'était ouais, une de mes artistes québécoises préférées. Émilie Lévesque, Mon Village, c'est son album Le Goût du Bonheur. Voilà, vous avez entendu Fulgence en train de rire tout le temps avec la chronique de sport Myriam Larage, avec elle on s'ennuie pas du tout. Hein. Elle m'a fait découvrir le hockey dans l'eau, là, dans la piscine. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, mon collègue Mathieu qui est ici, qui connaît ça là où il vient, là, Beauport, ou bien je ne sais où, là, ça se joue là-bas aussi. Voilà, je vais parler de... Ça fait trois jours que je parle des prix Nobel. Aujourd'hui, c'est le prix Nobel 2021 de littérature. Pourquoi pas? Le mardi, j'avais parlé de prix Nobel de chimie hier. Non, de physique. Hier, c'était chimie. Aujourd'hui, c'est littérature. Donc, le prix Nobel 2021 de littérature a été attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurna. Voilà, mais vraiment, hein, c'est, il a 72 ans, je ne sais pas, ces prix-là, on ne les a pas à 12 ans, 15 ans, hein. C'est un certain âge là-bas. Là. Aujourd'hui, ça s'est passé à Stockholm. Donc, dans l'histoire de la littérature, ce n'est que le deuxième écrivain d'Afrique noire qui a avoir reçu le prix littéraire le plus prestigieux du monde. Voilà, il vient de l'île de Zanzibar, qui est devenu plus tard la Tanzanie. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire, hein, Tanzanie, c'était Zanzibar. Voilà, donc l'Académie suédoise a encore une fois déjoué tous les pronostics en attribuant le prix Nobel de littérature à cet écrivain africain. Jusqu'ici, seulement 4 lauréats les plus prestigieux du prix littérature au monde étaient issus du continent africain. L'Égyptien Naguib Mahfouz en 88, les deux Sud-Africains Nadine et puis John Coltets. Voilà, restez à l'écoute. Voilà, on vous revient juste après la petite pause publicitaire avec notre invité Kia Tabassian, directeur artistique du groupe Constantinople pour les 20 ans du groupe Constantinople, cette ville mystique, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire.
Le 17-18 avec Fulgence Blas.
Jali,
Avec nous au téléphone, voilà, Kia Tabassian, directeur artistique du groupe Constantinople. Voilà, pour les 20 ans du groupe Constantinople. Il va nous dire pourquoi le nom, avoir choisi le nom de la ville, ou bien, je ne sais pas, peut-être que c'est un hasard, il nous le dira, Kia, il nous le dira. Alors, je ne sais pas, 20 ans de carrière, il a parcouru le monde entier avec tes différents artistes. Oui, 20 ans, c'est pas 20 semaines, c'est pas 20 mois, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 heures, c'est pas 20 secondes, c'est pas... Voilà, c'est dit bien 20 ans, bien compté. Voilà, pour célébrer cet anniversaire avec le public d'ailleurs, l'ensemble va présenter 6 concerts, même plus, avec de nouvelles créations, comme des œuvres qui ont marqué son histoire. Une exploration des musiques venues du monde entier qui se déroulera à la salle Bougie du Musée des Beaux-Arts de Montréal en octobre, depuis octobre 2021 jusqu'en juin 2022. Alors, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Ouais. Le groupe a développé plus de 50 créations qui ont voyagé dans plus de 240 villes à travers 54 pays avec 1080 concerts, en plus de réaliser 19 albums. Bonjour Kia Tabassian, directeur artistique du groupe Constantinople. Comment allez-vous?
Bonjour, oui, je vais très très bien, merci. Merci pour cette introduction.
Avec plaisir. Alors merci à vous d'avoir eu le temps de nous parler de ces 20 ans du groupe. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est le cadeau que vous nous faites avec tous ces spectacles à travers le monde entier?
Écoutez, c'est un cadeau qu'on se fait, nous aussi, quand on regarde un peu vers l'arrière, effectivement, 20 ans, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont et beaucoup de choses qui sont réalisées. Mais c'est vraiment avec un regard vers l'avenir qu'on se fixe pour les 20 prochaines années. Oui. Mais en tout cas, cette année, c'est notre 20e saison et on le célèbre en grand à Montréal parce que bon, l'ensemble est basé à Montréal.
Oui.
L'ensemble est né à Montréal. Mmh. L'ensemble a un rayonnement international, comme vous avez dit. Les chiffres qu'on vous avait dit, c'est des chiffres exacts qui ont été en fait minutieusement comptés.
Oui.
Le nombre de villes, le nombre de pays, tout ça. Mmh. Mais voilà, c'est un ensemble qui tourne beaucoup à l'international, mais c'est un ensemble qui est né à Montréal et qui a une identité forte montréalaise.
Votre ville d'adoption.
Oui, en fait, même pas d'adoption. En fait, le nom de Constantinople, vous avez évoqué son nom, vous êtes demandé pourquoi son nom, pourquoi le nom de...
Non, je parle de Montréal, votre ville d'adoption.
Oui, effectivement. Montréal, c'est ma ville d'adoption.
Oui.
J'ai immigré là que j'en ai 14 ans.
Oui.
Mais ça fait déjà 31 ans. Donc, c'est ma ville d'adoption. C'est ma ville maintenant. Et l'ensemble Constantinople aussi a vraiment son identité forgée autour de Montréal parce que c'est un ensemble qui est né ici et qui fait ses créations ici. Les premières personnes qui voient nos créations, qui écoutent nos créations, c'est notre public montréalais.
Oui.
Et tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi Constantinople. C'était le début quand j'ai fondé cet ensemble. L'idée de base, en fait, l'idée musicale, en fait, c'est l'ensemble est né d'un désir artistique, d'un son que je cherchais à créer. Et ce son que je cherchais à créer se plaçait à mi-chemin entre mes racines de musique persane,
oui,
musique d'Iran, et les musiques européennes de à l'époque, c'était, on travaillait beaucoup sur la musique du Moyen-Âge, Renaissance,
oui.
D'Europe, de la France, Italie, Espagne, Angleterre, etc.
Oui.
Donc on cherchait un point de rencontre pour ne pas être, parce que l'identité dès le début, c'était ni persan, ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni c'était un point de rencontre entre tous ces mondes-là.
Oui.
Et assez rapidement, le nom de Constantinople s'est imposé parce que, bon, durant, vous savez, cette ville, durant plusieurs siècles, a été la ville où il y avait le plus d'ambassadeurs du monde qui étaient là. C'est une ville cosmopolitaine.
Oui, une ville remplie de couleurs. Hein. Moi, je l'appelle toujours voilà. la ville arc-en-ciel.
Absolument, c'est une ville remplie de couleurs et un pied dans l'Asie, un pied dans l'Europe, un pied dans l'Orient, un pied dans l'Occident. C'était un peu, en fait, et pour moi, l'ensemble dès le début, c'était ce lieu de rencontre.
Mmh,
mmh. C'était le lieu de rencontre entre les musiciens, entre les musiques qui viennent de différents pays.
Non, ça va très 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 bien. Ça va très voilà. bien parce que quand je regarde votre parcours et puis les prochains spectacles qui vont venir, les artistes avec qui vous collaborez, j'ai dit mais ce voilà. Non, content, il peut pas trouver mieux que ça. Bon, ça pouvait être Arc-en-Ciel ou bien Kaléidoscope ou bien Mosaïque. Mais Constantinople, ça passe très bien. Non, non, non. Bravo, merci. Et votre frère, qu'est-ce qu'il est devenu, Zia?
Ah, Zia, il va très bien. Mmh. Zia, il est en Thaïlande depuis 2 ans maintenant.
Oui, chers auditeurs, j'ai posé la question parce qu'il a créé ce groupe là avec son frère Zia Tabassian. Hein, il n'a pas
tout
créé
fait,
le groupe tout seul.
Non, 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 tout à fait. Zia était là dès le début, mais il s'est rejoint au groupe assez rapidement.
Oui.
Et nous avons fait un bout de chemin. On avait fait au moins 10 ou 12 ans de Constantinople ensemble.
Oui,
ans.
Oui.
Et après, bon, il est parti sur ses propres projets.
Il fait carrière solo maintenant?
Oui, il fait carrière solo et il joue avec plein d'autres ensembles.
Oui.
Il mène une carrière internationale aussi. Il y a un des grands percussionnistes aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, il fait ses propres projets aussi.
Oui.
Et qui sont magnifiques aussi.
Il n'y a pas de concurrence, là.
Non, il y a que la complémentarité.
Alors, on va parler des spectacles qui ont déjà eu lieu là. Voilà, ceux qui se sont déjà passés, les premiers spectacles qui se sont déjà passés. Là, comment ça s'est passé? Vous avez eu du monde? Il y a des gens qui sont déplacés?
Ah oui, on a eu de la salle pleine à Salle Bourgie.
Oui.
Bon, selon les règles de la COVID. Hein. Donc c'était, ouais. Mais tous les sièges qui étaient disponibles sont partis, donc on a eu une salle qu'on appelle pleine. Et le public, écoutez, c'était une des premières fois que j'étais aussi ému devant mon public.
Okay.
De n'importe quoi, c'était un des concerts les plus émouvants. On a présenté notre concert le samedi dernier, là.
Oui.
Et c'était très, très émouvant. J'ai jamais été aussi ému devant mon public pour un concert.
Wow.
Et je sais pas, c'était les retrouvailles, c'était une retrouvaille qui avait beaucoup de sens. Je pense ça nous a manqué à tous, au public autant que musiciens. Et retrouver notre public dans notre salle, dans notre ville, c'est quelque chose. Parce que on a commencé à faire des concerts depuis le mois de juin dernier.
Oui.
On a fait plusieurs concerts en Europe, en France, en Suède, dans plusieurs pays d'Europe. Mais c'était la première fois qu'on jouait à Montréal, devant notre public montréalais.
Ah,
et ça okay. a fait beaucoup de bien.
Mm-hmm.
Oui, effectivement.
Okay.
Et on a hâte de les retrouver, notre prochain concert, qui est le 6 novembre.
Ok, on va écouter une autre pièce.
Oui.
Oh, oui, absolument. Oui. On va écouter cette fois-ci « Poisson au fond de l'océan ».
Oui.
Voilà. « Poisson au fond de l'océan » de l'album « Jardin migrateur ».
Exactement.
Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Poisson au fond de l'océan. On n'a pas tout écouté, hein. C'est parce que je veux parler beaucoup plus avec, avec Kier Tabassien. La pièce dure plus que ça. Bravo, hein, bravo pour ce parcours. 20 ans de musique, 20 ans de collaboration avec des artistes d'un peu partout. Comment la rencontre s'est faite avec Ablaye Sissoko du Sénégal? Où est-ce que vous l'avez rencontré?
Ah, je l'ai rencontré à Blas il y a justement une dizaine d'années. J'avais un album solo de lui,
oui,
que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Le Trio Rouge. Et quand j'écoutais cet album, j'entendais le son de mon instrument, le sitar, dialoguer avec sa kora.
Oui.
Et c'est un instrument, la kora, que j'aime beaucoup, mais la façon que Ablaye le joue est très spéciale pour moi.
Oui.
C'est particulier et il a son propre style, et, à la fois une authenticité, une innovation dans le son et de l'approche de cet instrument qui est formidable pour moi.
Oui.
Donc je l'ai tout simplement appelé. En fait, à l'époque, voilà, j'ai écrit un message et assez rapidement, il m'a répondu aussi. Il était surpris de recevoir mon message. Il disait, ça fait... moi aussi, j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui joue le sitar. Par hasard.
Wow.
Donc, c'était comme si on était dû pour se rencontrer, pour se retrouver. Et écoutez, depuis, c'est une amitié extrêmement forte et une très très belle amitié qui s'est forgée entre nous.
Je peux m'imaginer,
Oui. Donc, on a parcouru, on a fait plus de 150 concerts ensemble
dans
le monde. Donc, on a beaucoup voyagé ensemble, on a vraiment traversé terre et mer avec nos instruments, nos voix.
Oui.
Parce que les deux nous chantons aussi. Alors, c'est vraiment une belle entente, une belle amitié qui s'est forgée entre nous.
Est-ce que cet instrument que vous jouez, est-ce que cet instrument, etc., est-ce qu'il est encore populaire dans la nouvelle génération iranienne?
Oui, c'est un instrument qui est encore très populaire. C'est un instrument de musique classique iranienne, vous savez, de musique de savante ou classique d'Iran. Mais c'est un instrument qui est encore très populaire. Oui, absolument.
Est-ce que les jeunes de maintenant s'intéressent à ça? Est-ce que pour eux, ils sont pas seulement accrochés à leur cellulaire, à leur iPad, mais est-ce que les... c'est vrai parce que
c'est une très belle question.
Dans beaucoup de pays, la nouvelle génération, ils veulent pas, ils s'approchent pas des sages qui ont toutes les bibliothèques de différentes civilisations. Ils sont accrochés aux technologies. Point, c'est tout. Quoi. C'est pourquoi je pose la question.
Oui, effectivement. Non, c'est une très bonne question. Écoutez, une partie de la société, effectivement, c'est complètement absorbée par ces iPads et ces nouvelles technologies, mais ne serait-ce que ça, il y a encore quand même beaucoup de musique, beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces musiques.
Tant mieux.
Traditionnelle persane.
Oui.
Et oui. Il y a vraiment des centaines de milliers de jeunes qui jouent cet instrument-là maintenant.
Oui.
et c'est pas exagéré. Donc,
oh, ça me réconforte. ça, oui, je voulais pas, j'aime cet instrument, je voulais pas que ça disparaisse. Voilà.
Non, effectivement. Et je reçois beaucoup de messages de jeunes iraniens, justement, qui suivent ma carrière. Parce que, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné en Iran. Ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas fait de concert là-bas.
Oui.
Et je reçois beaucoup de messages de gens qui suivent. Ce que je fais ici au Canada, hein, par l'international aussi. Mmh. Et c'est réconfortant de voir, voilà, il y a toute une jeunesse qui est intéressée à ces musiques, à ces racines profondes, vous savez. C'est quand même... ça fait la culture persane, c'est les racines de toute personne qui est en Iran.
Oui, oui.
Ce sont là les vraies racines, hein, beaucoup plus que ce qui se passe aujourd'hui. Donc,
ça n'a rien à voir avec, c'est différent. C'est comme le jour et la nuit. Alors, sur les traces de Rumi, Constantinople et Galia, oui. Ben Ali de Tunisie. Le 6 novembre, ce voyage intérieur sur les traces de Rumi emprunte le chemin invité par des rencontres marquantes. Voilà. Parlez-nous un peu de ça. Ça va se passer le 6 novembre.
Oui, exactement. Le 6 novembre aussi à la salle Bourgie,
oui.
Et, de Montréal. Et,
j'aime l'acoustique de cette salle.
Ah oui, c'est une salle avec une belle énergie, une belle acoustique.
Oui.
Et nous allons être quand même un grand groupe sur scène. On va être 8 musiciens sur scène avec Aralia. Une chanteuse extraordinaire aussi que j'ai rencontrée il y a 3-4 ans.
Oui.
Je l'ai rencontrée lors d'un projet qu'on faisait en commun en Espagne.
Mm-hmm.
Et à l'époque, je m'y jetais sur ce projet autour des poèmes de Rumi. Et quand je l'ai entendue, je me suis dit, c'est la voix qui doit chanter cette musique. Aralia, elle est à la fois une chanteuse, une artiste, une actrice, une artiste. Peintre,
elle est multidisciplinaire, belgo-tunisienne. Voilà. Ah,
oui. Oh, ouais. Mmh. Oui, d'origine tunisienne, basée à Bruxelles depuis une trentaine d'années aussi.
Oui.
Et elle a une présence extraordinaire aussi sur scène. Et elle vit la musique à travers tout son corps et tout son chant. Donc, avec une magnifique voix, donc très agréable à écouter, à regarder, à...
On part
en voyage ensemble.
Voilà, d'accord.
Scène, on part quelque part.
Ouais, parce que je veux pas qu'on oublie. Voilà, je veux qu'on fasse un clin d'œil aux autres, sinon ils vont se plaindre s'ils nous écoutent. On fait un clin d'œil à Clair Obscur, Constantinople et à Filetta, et puis bon ben Il Ponte di Leonardo avec Marco Bisli de l'Italie. Après, ensuite, l'autre aussi Del Piacere d'Espagne. Rapidement un clin d'œil à ceux-là avant qu'on ne se quitte.
Tout à fait. Écoutez, à Filetta, hein, c'est en décembre. C'est
le 11 décembre, oui.
Oui, voilà. Ceux qui s'intéressent aux polyphonies corses, à Filetta, hein, c'est l'ensemble phare de ces chants.
Oui.
Donc, nous avons fait cette création ensemble. Cette tournée était prévue avant le Covid. Maintenant, on l'amène après Covid.
Oui.
Et c'est une collaboration extraordinaire aussi entre les deux ensembles, entre les musiciens de Constantinople et les chanteurs d'Afilette.
Oui.
Et après, on poursuit, voilà, avec le concert autour du pont de Da Vinci. Vous savez, Da Vinci, il a dessiné un pont durant sa vie qui allait parcourir sur le Bosphore. En fait.
C'est ça.
Il allait être à l'époque, ça allait être le pont le plus long au monde.
Oui.
Mais le sultan à l'époque, quand il a vu les dessins de Da Vinci, il a dit non, ce sera infaisable.
Ouais.
Donc c'était trop difficile pour lui à l'époque, pour le sultan de réaliser ce pont. Donc les dessins de ce pont qui allait relier l'Occident et l'Orient sur le Bosphore ont reposé dans sa bibliothèque personnelle. Et 500 ans après son décès de Da Vinci, nous avons décidé de réaliser ce pont, mais de façon musicale.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc ça va être Il Ponte di Leonardo qu'on nous allons tracer pour vous en musique.
Merci beaucoup.
Il y a deux autres concerts, mais si on n'a pas le temps, il y a
De toutes les façons, moi je vais revenir, je vais toujours faire un clin d'œil à vos différents spectacles, ça dit que je vais les annoncer, je vais les passer le 9 avril 2022, on a le temps d'ici là, et puis non, bravo, bravo, bonne fête, et puis bon vent, les 20 ans de carrière, waouh.
Oui. Merci. Et nous sommes toujours sur les routes, et là on s'en va en Allemagne pour un concert ce samedi en Allemagne.
Vous n'arrêtez pas vous, hein. Merci beaucoup Kia Tavassian, directeur à City du Cruz Constantinople, pour les 20 ans du groupe. Allez, bon vent, bon chemin, bon, bon spectacle et à bientôt. Allez, au revoir.
Merci, au revoir. Oui. Au revoir. Oui.
Don't be afraid, come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. Play the blues for you.
Elle play the blues for you. Et merci à notre fournisseur de son, Myriam Larrache, qui est venu nous faire découvrir pas mal de choses dans les deux milieux du sport. Et puis, qui est Tabassian, directeur artistique du groupe Constantinople pour les 20 ans du groupe, qu'on aura l'occasion de réentendre ici dans notre canal Homme. Merci à toi, Nicolas. Merci à Mathieu aussi, qui est juste là pour... coaché à côté, il me demande est-ce que je le remercie. Merci à vous chers auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité et au plaisir de vous d'être avec vous demain encore pour terminer la semaine en beauté. Voilà, prenez soin de vos minutes, de vos proches, tendez les mains aux autres, jetez un petit coup d'œil chez le voisin s'il a besoin d'aide. Et moi, je vous dis ciao et à demain.